Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Minutes des Fiertés, l'émission flash de Esprit Occitanie à thème LGBT et féministe. Aujourd'hui et en 20 minutes, nous allons nous intéresser à la place des femmes dans le journalisme à travers un épisode hors série dédié. Depuis la démocratisation du féminisme, le secteur du travail n'a pas été épargné par les prises de parole. Et surtout dans le journalisme, un milieu au départ très masculin et qui fait l'objet depuis maintenant plusieurs années d'une très mauvaise presse à cet égard. Pour citer une des affaires les plus connues, nous pouvons parler des témoignages à propos de Patrick Poivre d'Arvor, qui ont amené en tout une vingtaine de femmes à parler d'agressions sexuelles, parfois même de viols, que ce journaliste leur avait fait subir. Mais le sexisme s'immisce dans des actes plus quotidiens et moins apparents. Remarques sur la tenue, harcèlement au travail, attouchement. Charline Poulain, la vice-présidente de l'Association des journalistes de Toulouse, est avec nous aujourd'hui pour nous en dire plus sur le sexisme dans le milieu du journalisme. Alors bonjour Charline Poulain, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors tout d'abord, j'aimerais vous demander, pour introduire notre sujet, d'où viennent les inégalités qu'expérimentent les femmes dans le milieu du journalisme? Donc écart de grade, différence de fréquentation du métier, remarques sexistes, etc.
Bah voilà, alors moi je pense qu'effectivement on peut tout résumer notamment avec le salaire. Quand on sera à salaire égal, je pense qu'il y aura beaucoup moins d'inégalités. Quand les postes d'accès à la chefferie, à la direction seront équitablement répartis aussi. Pour vous répondre, j'ai fait un petit tour de mes collègues, de mes amis, et c'est vraiment ça qui ressort de façon assez prégnante, le salaire. Je voudrais citer une personne qui a fait sa carrière en PQR et qui disait « Moi, je fais partie d'une génération où il y avait peu de femmes dans les rédactions dans les années 80-90 et elles étaient souvent cantonnées à l'éducation et à la culture. » Donc, à voir si maintenant ça a changé. Elle dit « Je n'ai jamais été confrontée à des remarques sexistes ou des agressions. J'ai pu progresser dans mes fonctions jusqu'à vers à peu près 55 ans. » Et après, elle met « plafond de verre ». Très intéressant, par contre, une rédactrice en chef toulousaine qui dit « Non, moi, je ne suis pas du tout confrontée au sexisme. Pas de difficulté non plus dans l'équipe pour les hommes, pour se faire manager par elle. Si elle a rencontré une difficulté, elle pense que c'était plutôt par rapport à son âge. Elle était plus jeune qu'une des personnes qu'elle devait driver. » Et alors, elle soulève ce point qu'on revoit très souvent. C'est, elle dit... Est-ce qu'il n'y aurait pas une surreprésentation des femmes, on vient de l'évoquer d'ailleurs, dans des domaines comme la culture? Et est-ce que ça ne serait pas là une sorte de culture à défaut, par exemple, de politique ou d'économie? Et elle dit, est-ce que ça ne serait pas là une autocensure de leur part? Et c'est une idée qui a été reprise par une amie qui s'appelle Anne Fournet, qui est pigiste en France et au Luxembourg. Et elle dit, parfois, j'ai l'impression qu'on ne s'impose pas autant que les hommes journalistes. On n'ose pas, et ça pour moi c'est très vrai, on n'ose pas prétendre à une augmentation. Aller tous les ans redemander une augmentation, ça serait intéressant de voir le pourcentage de femmes qui le font par rapport à leurs collègues hommes. Et non seulement pour une augmentation, mais aussi pour des postes à responsabilité. Et ensuite, elle donne un exemple auquel on ne penserait pas forcément quand on n'a pas travaillé au Luxembourg. Le Luxembourg était dans un groupe de presse dont l'actionnaire principal était l'évêché. Donc la religion catholique est assez forte dans ce pays. Et tant que la rédaction en chef a été plus ou moins indépendante, les femmes ont progressé. Et elle dit, nous avons eu un chef libéral pendant quelques mois, des femmes ont eu des postes à responsabilité, des plumes acérées avaient le champ libre, jusqu'à ce qu'ils partent et qu'on nous serre la vis. Voilà, donc pour vous résumer, ce serait vraiment quand on sera à salaire égal et quand on aura aussi accès aux postes de direction.
Alors malgré ces inégalités que vous observez, on peut quand même dire que certaines tendent à se réduire. Alors de quelle façon et depuis quand on aperçoit un peu une atténuation de ces inégalités dans le journalisme ?
Alors, je ne sais pas si on peut parler d'atténuation. Oui, j'espère. Par contre, je vais prendre le problème par l'autre bout. À savoir, il y a de plus en plus de femmes dans le journalisme, mais on n'est pas sans remarquer que le métier se paupérise de plus en plus. Les rédactions se déplument au profit des journalistes indépendants, les journalistes pigistes. Voilà. Quand j'en ai parlé avec mes collègues, elles me disent « oui, oui, il y a de plus en plus de filles embauchées dans les rédactions. La discrimination positive, ça existe pour faire du rattrapage. » Mais alors, tout le monde souligne bien que le métier se paupérise, donc plus de femmes.
Justement, en parlant des femmes, comment on peut décrire leur place dans le journalisme aujourd'hui ?
Bien, de fait, il y a de plus en plus de filles qui sortent des écoles de journalisme, il y a de plus en plus de candidates qui arrivent sur le monde du travail, et dans les rédactions, là je suis en train de vous parler et j'identifie des rédactions où clairement je vois que des filles, et notamment au poste de chef, j'entends penser à la PQR là notamment, et au poste de chef des garçons, voilà, et dans la salle de rédac, des filles partout.
Est-ce qu'on peut encore dire que le journalisme est un milieu d'hommes ?
Non, 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 vraiment pas, vraiment pas. Regardez à tous les postes, qu'on travaille par rubrique, qu'on travaille par territorialisation, qu'on regarde le plateau technique du SR, même les photographes, je pense qu'il y a plus en plus de filles photographes. Non, non, c'est pas un métier d'homme.
Je vous propose maintenant d'écouter quelques récits de femmes journalistes, anonymisées, de tout âge, de toute rédaction, de tout milieu, allant du harcèlement au travail jusqu'à des cas de viol. Myriam Guillemot-Silenco, secrétaire du Syndicat national des journalistes, portera deux de ses témoignages anonymisés également.
Une jeune femme, son chef, tous les jours, lui propose de coucher avec lui. J'en viens avec moi dans les chiottes, on va tirer un coup, ou lui envoie des photos de sa queue, enfin, etc. Ça dure pendant des mois jusqu'à ce qu'elle craque, et elle craque vraiment au point d'en avoir une dépression. Et là, elle porte plainte quand elle va mieux, et c'est trop longtemps après, et surtout, il n'y a personne de solidaire dans la rédaction, c'est-à-dire que tout le monde l'a entendu, et personne n'accepte de témoigner pour elle.
En 2010-2011, j'étais en stage comme photographe, j'avais environ 28 ans. Un jour à la rédaction, en fait, je racontais un reportage où j'avais croisé un collègue que j'avais appelé, puis il s'appelait Thierry. Et en fait, quand je racontais ça, un autre photographe qui était présent dans la rédaction, lui, il était âgé de 40-50 ans, en fait, il s'est mis à me singer, à imiter mes propos, mais avec une intonation sexuelle. Donc il répétait « Thierry, 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 oh Thierry !» Et à la fin, il finissait par des grands cris d'orgasme. Donc voilà, ça a duré plusieurs longues minutes, en fait, à tel point que le chef du département, il est intervenu pour demander à ce photographe de se calmer. Et en fait, ce jour-là, j'ai plus levé la tête de mon clavier le reste de l'après-midi. Et ensuite, j'ai quitté la rédaction sans dire au revoir. Et vraiment, j'étais furieuse, mais j'ai rien dit.
Alors moi, je suis étudiante en journalisme. J'ai bientôt 20 ans. Et l'année dernière, j'ai fait mon premier stage dans une rédaction d'un journal en presse écrite. J'ai fait la rencontre d'un journaliste, c'était le journaliste politique de la rédac, qui avait, disons, une réputation douteuse. Et puis un jour, j'avais besoin de coordonner pour préparer des interviews. C'était lui qui avait tous les contacts politiques. Et il me dit, tourne-toi, regarde, ils sont là. Moi, je me retourne, je me penche vers une feuille, et là, je sens sa main se poser sur mes fesses. Comme s'il allait commencer une caresse ou je ne sais quoi, ça a duré deux secondes. Mais je me suis retournée et la première chose que j'ai pu prendre dans mes mains allait atterrir dans sa figure, c'est ce que j'ai compris de suite. Alors j'ai pris sa tasse de café brûlante et je lui ai foutu sur la gueule.
Une jeune femme, j'essaie de faire, d'en dire le moins possible. C'est un club dans lequel il y a des journalistes plutôt anciens et des jeunes journalistes, et il y a un système de parrainage. Et là, c'est le journaliste qui contacte la jeune femme. Il l'invite à dîner plusieurs fois. Elle lui dit non, qu'elle ne voit pas pourquoi elle dînerait avec lui. Et il lui dit, et si j'organise un dîner avec des gens justement qui peuvent vous intéresser, est-ce que vous viendriez ? Elle dit, là oui, bien sûr. Et donc, il l'invite à dîner sur un dîner d'une douzaine de personnes, et elle arrive et elle est seule. Mais elle est jeune et bien élevée, donc elle ne se casse pas. Il lui offre à boire, elle perd ses moyens et il la viole. Elle est démolie. Hein. Ça s'est passé il y a 2 ans. Elle n'est plus journaliste. Et elle a quitté, ça se passait à Paris. Elle n'est plus à Paris parce qu'elle a trop la trouille de le croiser dans une rue. Voilà.
Alors moi, j'aimerais vous demander, est-ce que selon vous, ce sont les jeunes journalistes ou en tout cas les stagiaires qui sont le plus exposés à ce genre de choses ?
Alors oui, je pense que les jeunes journalistes, hommes et femmes, sont exposés une réaction assez dure des collègues en poste, à potentiellement du harcèlement. Il y a des façons de lutter contre ça. Ils sont plus exposés, pourquoi ? Parce qu'ils sont plus vulnérables, c'est-à-dire ils vont passer quelques mois dans la rédaction. On peut très bien les remercier assez vite et de ne pas les garder. Pendant les stages d'été, il est important qu'avant que les journalistes, les jeunes journalistes ou les stagiaires ne partent, il est important d'avoir un contact avec vos écoles de journalisme et de faire une sorte de hotline. Ça marche très bien ce truc-là. C'est-à-dire que si le 15 août, vous n'en pouvez plus, vous avez été confronté à quelqu'un qui, dans un seul en poste... Je peux bien parler de ça d'ailleurs. Dans un seul emploi, vous a bien pilé la tête parce qu'il considérait qu'il était votre chef et qu'il avait une emprise extraordinaire sur vous. Vous devez pouvoir en parler à quelqu'un. Donc que ce soit quelqu'un de la rédaction ou que ce soit quelqu'un de l'école. Parce que parfois, un simple coup de fil en disant « Dites donc, votre collègue là-bas, il ne peut pas la faire bosser jusqu'à 22h tous les soirs. Non mais il ne peut pas lui parler comme un chien parce qu'elle est en pleurs. Après, comment vous voulez qu'elle continue à travailler ?» Ça résout pas mal de choses. Voilà, donc un bon contact avec l'école, avec la structure et également porter cette voix jusqu'à la rédaction. Parce que si quelqu'un enquiquine le ou la stagiaire en plein mois d'août, il y a quand même de fortes chances qu'il pile ses collègues pendant le reste de l'année.
Est-ce que vous avez des exemples d'initiatives qui ont été mises en place justement, alors à part celles dont vous venez de nous parler, pour lutter contre le sexisme, le harcèlement, les agressions dans ce milieu ?
Oui, alors, déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a eu la vague MeToo, il y a eu Balance ton porc, il y a eu la Ligue du LOL, et tout cela a fait quand même considérablement réfléchir les professionnels, alors dans tous les métiers, mais là ce que je vous cite c'était aussi dans notre métier de journaliste, et le travail militant, le travail féministe a peut-être été regardé d'un autre œil, parce qu'on pouvait se dire non féministe, mais dans ce qui avait été travaillé, il y a des choses qui remontaient, des choses déjà très intéressantes et un terrain déjà défriché. Alors par exemple, alors ce titre est rigolo, ça s'appelle « Petit manuel de rébellion à l'usage des femmes journalistes ». Donc c'est l'association Prenons la Une qui a édité ça. Il suffit d'aller en ligne et puis de mettre ses coordonnées et on le reçoit. À côté de ça, ça fait des années que des gens travaillent là-dessus. Donc moi, je portais cette parole, je portais cette connaissance en cours à des étudiants, à l'IAJT. Et en lisant là-dessus, je me suis rendu compte que l'Université Paris-Dauphine et l'IUT de Lannion, alors avec deux profs, c'est Pascal Collisson et Sandy Montanola, avaient travaillé là-dessus et elles avaient compilé des études sur des comportements sexistes, du harcèlement sexuel. Et elles sont revenues montrer ces études à des dirigeants d'école qui tombaient des nues, en fait, en se rendant compte des chiffres qu'elles comportaient. Et contre ça, donc peut-être il y a une petite redite par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut faire des choses. C'est-à-dire que elle disait on peut agir en trois points. Donc on met un référent ou une référente formée à tous ces enjeux dans les écoles. Ça peut aussi se jouer au relationnel que vous avez avec un prof, avec une directrice, etc. Le contenu d'une lettre, par exemple, qui détaillerait ses missions, comme ça pose bien les choses, et la mise en place d'une cellule d'écoute. Et là où c'est très fort, c'est qu'en fait, ça, normalement, ça existe. Cette cellule d'écoute devrait exister dans les universités, c'est très souvent inscrit dans leurs conventions. Voilà. Donc c'est peut-être des idées dont on peut se saisir pour les remettre dans d'autres structures. Pourquoi je vous parle des écoles ? Parce qu'en fait, c'est quand même assez important. Cette même enseignante, Pascal Collisson, elle disait... Alors, elle, c'était dans la Tribune, et elle avait c'était la rubrique Opinion en 2019, et on était juste après... Enfin, on était après la Ligue du LOL. Et elle disait, dans un deuxième temps, c'est poser la question de la responsabilité des écoles de journalisme, lieu où certaines personnes étaient incriminées... certaines personnes incriminées s'étaient rencontrées. Elle disait, peut-on imaginer encore aujourd'hui qu'elles fabriquent même inconsciemment de la violence ? Voilà. Donc, cette réflexion est à apporter bien en amont. Et là où moi, ça me semble passionnant, c'est que cette réflexion, on peut l'avoir en tant que professionnel quand on se heurte à ce genre de situation. On peut l'avoir aussi parce qu'à un moment donné, on a le temps d'avoir une réflexion là-dessus. Mais je vous jure qu'en apportant cette réflexion en classe et en écoutant juste ce qui remonte des étudiants, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai des années, j'ai des étudiants qui se sont véritablement disputés devant moi. Donc là, on sent qu'il y a un nœud, on sent qu'il y a quelque chose.
Donc tout part des écoles, tout part de la communication dans les formations, selon vous?
Je ne sais pas si c'est tout. Oui, effectivement, j'ai mis l'accent là-dessus. Mais je pense qu'avant qu'on soit dans le grand bain, qu'on soit dans les agences en sous-effectif, où le temps de la réflexion est vraiment moindre, il est vraiment intéressant d'aborder ce problème en école et que les jeunes partent en stage et ensuite en poste, en étant assez conscient de ça. Mais cela dit, je suis assez optimiste parce que j'ai l'impression que la jeune génération est bien plus au fait.
Ça se fait de plus en plus, oui, en termes de sensibilisation. On va maintenant s'intéresser à votre association, dont vous êtes vice-présidente, l'Association des journalistes de Toulouse. J'aimerais vous demander, donc, dans cet asso, quelle place prend le combat pour les droits des femmes dans le journalisme?
Alors, il y a 2 ans, deux ou trois ans, on a initié quelque chose là-dessus. Donc, c'est une collègue qui s'appelle Corinne Dillensinger qui avait proposé et qui a mené un travail. Donc, c'est une des façons de commencer à approcher ça. Et là, son idée, son angle, c'était de s'attacher au traitement journalistique des violences faites aux femmes. Voilà. Et elle avait invité Sophie Gourion. Donc, Sophie Gourion, c'est une journaliste, écrivaine, communicante. Et elle était en train d'alimenter un site qui s'appelle « Les mots tuent ». C'est tous ces titres pseudo-humoristiques qui sont faits sur des faits divers, sur des comptes rendus de tribunal où des femmes ont été tuées ou violentées. Tous ces titres un peu humoristiques. Et savoir la charge qu'ils portent et ce qu'ils véhiculent, en fait, une sorte de banalisation. Et en commençant à s'intéresser là-dessus, on s'aperçoit que, ben voilà, à s'intéresser là-dessus, la porte est grande ouverte à beaucoup d'autres réflexions. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup perturbée parce que je me suis aperçue qu'en faisant des comptes rendus de tribunal et en pensant être absolument intègre, on n'est jamais qu'un reflet de la société, hein, donc on pouvait transmettre une idée préconçue et que ça méritait vraiment, vraiment une réflexion. Donc voilà, je pense qu'en ouvrant des portes comme ça et en réfléchissant sur des sujets les uns les autres, la place des journalistes femmes dans les rédactions, la façon d'écrire, on ouvre un petit peu le débat et on ouvre une réflexion.
Alors, vous parlez de cette découverte, on va dire, qui vous a un peu sensibilisé, donc il y a 2 ans. Mais est-ce qu'au début de la création de l'association, ce combat tenait la même place? Parce qu'on parle quand même de 2003, c'était pas la même chose que 20 ans plus tard, hein.
Alors, comme je ne sais pas répondre à cette question, parce que moi j'y suis seulement depuis 2017, et donc notre soirée avec Sophie Gourion, c'était 2018, je crois. J'ai été demandée à mes collègues et on m'a répondu que oui, il y avait déjà un regard là-dessus. Voilà, je suis désolée, je ne peux pas rentrer plus en profondeur.
C'est déjà bien de le savoir.
Et ce qu'on s'est dit, en fait, c'est qu'on allait refaire un point là-dessus, qu'on allait refaire une soirée là-dessus, parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu la vague MeToo. Qu'est-ce que ça a laissé comme trace dans les rédactions? Qu'est-ce que ça a laissé comme trace dans les façons d'écrire, de s'exprimer, de titrer, par exemple, le lendemain des procès, qui était aussi très, très attendu? Et voilà, est-ce que les choses changent ou pas?
Alors là, vous parlez de ces réunions que vous faites entre vous, donc entre journalistes à l'AJT, c'est ça?
Oui, alors les réunions de l'AJT, on appelle ça des soirées. Alors c'est soit des soirées de réflexion, soit des soirées de débat. Là, on en a une le 13 février sur les pigistes. C'est un atelier où on discute tous ensemble, il y a des points pratiques. Et vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ouvert aux journalistes, c'est ouvert à des gens qui seraient plutôt du milieu de la com, s'ils le désirent. C'est ouvert à des étudiants, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Ah oui, on avait fait une conférence avec Didier Robert. Et là, on avait eu des gens vraiment d'autres milieux qui étaient venus. Et c'est très agréable aussi de pouvoir se parler.
Ça fait partie des actions, on peut dire, des choses que vous mettez en place pour sensibiliser à cette cause, donc ?
Oui. Et bon, après, il y en a d'autres aussi, des causes, mais oui, ça fait partie des choses à mettre en place. Et à ce titre, voilà, je vous disais que nous, on allait refaire une soirée peut-être un peu bilan, lendemain de MeToo, mais vraiment, on a fait un appel il y a 15 jours avec quelles sont les soirées qui vous intéresseraient. Effectivement, si des questions comme ça remontent, nous, on sera ravis de s'en emparer, d'aller chercher des réponses, d'aller chercher des spécialistes pour parler.
Cette émission touche à sa fin, c'en est tout pour cet épisode spécial sur les femmes dans le journalisme. Je remercie Charline Poulain, vice-présidente de l'Association des journalistes de Toulouse, d'avoir été notre invitée. C'était les Minutes des Fiertés sur Esprit Occitanie. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.